You out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre émission sportive. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Génération Sport, mais surtout une année 2023 qui devrait nous réserver quelques surprises. Nous n'avons pas eu le temps de le faire sur nos réseaux, mais alors on profite de cette émission pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2023. On vous souhaite la santé, le bonheur et évidemment la réussite. Donc voilà, très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle année qui commence tout juste. Et donc voilà, on voulait vous souhaiter une très bonne année. Je vais en profiter pour leur re-souhaiter une bonne année à mes deux chroniqueurs. Je vais commencer par Faustin. Bonne année, Faustin. Attends, pardon. Ça a du mal en ce début d'année de mon côté. Salut Faustin, donc bonne année.
Salut Alex, bonne année à toi aussi. Meilleurs vœux.
Et du coup, oui, comment ça va?
Bah, ça va très bien.
Le réveillon s'est bien passé?
Ouais, nickel.
Pas d'excès? On rappelle que tu es mineur, donc il faut.
Non, non, pas d'excès.
Très bien.
On connaît tous le danger du champomir.
Ça peut faire mal. Cédric, de ton côté, je te souhaite aussi une très belle année.
Oui, encore bonne année à nos éditeurs. Voilà, comme tu as dit, hein, tout ce qui va avec. Et puis, bon, on espère aussi avoir une très bonne année sur le point de vue sportif.
Bien sûr. Et sur le point de vue radiophonique.
Et voilà, aussi, oui.
Ton réveillon s'est bien passé aussi?
Ouais.
Tranquillement.
Posé. Hein. J'ai eu l'impression, en discutant avec plein de gens cette année, la tendance du nouvel an, c'était raclette ou fondue.
Ouais, plus chill, tu veux dire?
Ouais.
Plus à la cool.
Ouais, tout le monde, ça sortait
c'est
un
vrai,
peu, mais ça avait l'air d'être plus chill, comme tu dis.
T'as raison. Donc voilà, cette année qui va commencer donc, pour nous sur Génération Sport, mardi 3 janvier. Cette émission va donc se dérouler en trois parties. Comme d'habitude, on va commencer par les actus sportives locales et internationales. Puis on continuera avec un hommage à Pelé, la légende du football, qui est décédé jeudi 29 décembre dernier. Donc voilà, ça a été une grosse nouvelle pour le monde du sport, évidemment. Donc, on reviendra évidemment un peu dessus. Enfin, on vous présentera donc les différents événements sportifs les plus attendus en 2023, du point de vue local, un petit peu, et puis aussi, surtout, le point de vue international, avec des belles choses qui nous arrivent en 2023, même si, évidemment, on pense tous à 2024 dans un coin de nos têtes. On va donc commencer, sans plus tarder, par les actualités sportives avec le local. On aura pas mal de choses à dire. Je vais revenir après avec vous, les gars, pour échanger sur ce sujet. On va démarrer avec le SCO qui n'a pas amélioré sa situation sur les deux dernières journées de Ligue 1. Deux matchs après un mois et demi d'interruption de championnat et toujours cette série de défaites qui perdure. Elle s'est élargie à 9 dimanches lors de la réception de Lorient. Avant ça, les Angevins avaient rendez-vous mercredi en Corse pour y défier un concurrent direct au maintien Ajaccio. Malgré de nombreuses occasions, les scoïstes sont repartis bredouille de l'île de Beauté avec une défaite 1-0 concédée sur un pénalty de Belaïli provoqué par le gardien Bernard Denis. 4 jours plus tard, l'occasion était de savoir si les progrès angevins aperçus donc contre Ajaccio pouvaient se concrétiser face à Lorient, véritable surprise de ce début de saison. Et cela avait plutôt bien démarré avec l'ouverture du score rapide de Sima, auteur de son premier but de la saison. Malheureusement, l'attaquant fut moins chanceux en fin de seconde période avec un but contre son camp sur corner. L'issue de la partie fut rude pour le SCO avec ce but en fin de match magnifique de Lefay sur une frappe limpide. Défaite cruelle 2-1 pour les Angevins qui voient leur concurrent direct reprendre de l'avance comme par exemple Nantes. Le club du Maine-et-Loire est distancé à 7 points du dernier non relégable. Un autre petit point évidemment par rapport à tout ce qui peut se passer en dehors du terrain. Alors déjà sur les prochains matchs, on a un prochain match en coupe vendredi prochain contre Strasbourg. Et puis il y aura également ce prochain match en championnat cette fois-ci, mercredi 11 janvier contre le PSG au Parc des Princes avec notamment les retours attendus de Neymar et de Messi. Au niveau du mercato, dans le sens des arrivées selon certaines rumeurs, l'ancien Stéphanois et napolitain Faouzi Ghoulam est en approche. Il va bientôt d'ailleurs s'entraîner avec le SCO avant que ça soit officialisé. Et puis, au niveau des départs, évidemment, on surveille les cas Unai et Boufal, auteur d'un très bon mondial. Naples semble très bien embarqué pour enrôler la jeune pépite Unai. Et dans les côtés négatifs et surtout extra-sportifs au niveau du SCO, ce matin, il y a une perquisition au siège du SCO à la Baumette. C'est le service central des courses et jeux, donc le SCCJ, qui a été missionné par le parquet de Bobigny, qui s'intéresse donc à des transactions financières et au rôle de certains agents sur des transferts, notamment liés avec le club de Saint-Étienne. Bon. Sur le point de vue sportif, c'est la cata. Sur le point de vue extra-sportif, c'est un peu la cata. Messieurs, voilà, c'est clair que, évidemment, on garde, comme on est angevin, notre optimisme. On a du mal à voir Angers en Ligue 2, mais avec ces deux nouvelles défaites qui, comptablement, sont des terribles opérations, est-ce que le maintien pour vous, il est entériné définitivement ou est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir ?
Hormis une météorite qui frappe et arrêt du championnat, enfin, non, franchement, quand on voit tout ce qu'il y a autour, de toute façon, même si jamais on se maintient, on restera pas en Ligue 1.
Ouais.
Il y aura sûrement le fair play financier, et puis bon, comme tu dis, avec les affaires juridiques, ça commence à bien s'empiler, je pense, la pile d'affaires au service juridique du SCO. Voilà, enfin, c'est un club qui est pas loin de mourir quand on voit tout ça.
Oui, c'est clair que sur tous les aspects, ça paraît compliqué. Est-ce que sportivement, il y a certaines raisons d'y croire ? Parce que si on se focalise évidemment sur le sportif, est-ce que vous avez vu des choses qui s'améliorent ?
J'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, on est à ça, quoi. On y est presque, mais il y a toujours un truc qui nous arrive, on manque de réalisme, on prend un but nul contre son camp, voilà. Mais c'est, le problème, c'est que c'est ça à chaque match. Donc, limite, on ne peut plus dire que ce n'est pas de chance, entre guillemets. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est étrange ce qui se passe. C'est très frustrant aussi de voir son équipe perdre comme ça.
Bien sûr.
Ça c'est contre Lorient qu'on contrôle le match pendant 71 minutes et que derrière.
Ouais, c'est le match de dimanche où l'égalisation arrive à la 79e. Et que du coup, voilà, effectivement, on mène tout le match et qu'effectivement, on se craque sur la fin.
Il y a un problème, quoi. Enfin, il n'y a pas d'esprit, quoi.
Ouais, c'est ça.
Logiquement, tu sais que tu es en galère, tu es en train de mener pendant plus de 70 minutes. Tu peux bien croire qu'il y a de la fatigue, mais. Et encore, la fatigue, elle a de l'âge.
Oui, parce qu'ils viennent de reprendre.
Voilà. Et puis bon, ils ont eu toute la Coupe du Monde. C'est pas comme si le SCO avait eu 3 milliards de joueurs.
Ouais.
Partie, mais j'ai l'impression que c'est dans plein de clubs aussi, tu as ce phénomène de fatigue chronique.
Ouais, c'est clair.
Mais tu mènes alors que tu es en galère et tu te fais rattraper bêtement. Apparemment, moi, ce que j'ai lu sur le réseau, c'est que oui, il y a un petit fond d'amélioration, mais ça suffit toujours pas.
Ouais, clairement, ça se voit que le SCO se crée des occasions et à chaque fois l'équipe qui peut y croire, clairement, sur les deux rencontres. Clairement, il y a des occasions. Par rapport, moi je trouve, en tout cas, par rapport à notamment les matchs de novembre, d'octobre, il y a plus de choses qui sont mises en place. Après, voilà, ça ne paye pas et aujourd'hui, le SCO n'a pas besoin de se rassurer sur des occasions. Ils ont besoin de points, qu'importe la manière. Et donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que pour sortir de la situation, quelles sont les possibilités ? Est-ce qu'il y a peut-être un mercato à faire qui peut être intéressant ?
Oui, mais il faut de l'argent.
Ouais, c'est ça.
Il faut de l'argent.
Il faut vendre d'abord.
Encore une fois. Techniquement, oui, il faudrait vendre d'abord pour pouvoir essayer d'acheter. Mais le problème, ça veut dire que si on vend, techniquement, ça va être les meilleurs joueurs de cette première partie de saison.
Ouais.
Et après, il reste qui, c'est voilà.
Non,
même là, le transfert que tu évoques, enfin l'arrivée.
L'arrivée,
ouais, peut-être. Qui est pas en...
Oui.
C'est un joueur quand même qui était en attente de contrat, quoi. Donc,
ouais,
techniquement, ça veut dire que
depuis 6 mois.
Si Naples n'a pas voulu le garder, c'est qu'il y a sûrement des raisons.
Ouais. Et puis surtout, peut-être à court de forme.
Voilà, c'est ça. Après, il faut voir la forme du joueur.
C'est dynamique.
C'est bon, c'est apparemment, ok, il a été très. Se remettre au vert, c'est le cas de le dire, à Saint-Etienne pour se refaire une santé. Mais voilà, du coup, on ne sait pas la qualité du joueur. Puis bon, avoir aussi le salaire derrière.
Bah oui,
c'est ça aussi. Et puis bon, il y a cette.
International algérien.
Et cette Coupe de France qui arrive aussi.
Oui.
Quid de la Coupe de France, on fait quoi ?
Est-ce qu'on la joue à fond ?
Est-ce qu'on envoie les jeunes plutôt que l'équipe titulaire ?
C'est une bonne question.
C'est, voilà, enfin, t'envoies l'équipe titulaire. Il gagne, ok, c'est cool, ça peut donner de la confiance, ça peut peut-être relancer la saison. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de jouer la Coupe de France si c'est votre détriment du championnat? Donc.
Donc voilà, ça va être compliqué le SCO, hein, avec donc surtout ces petites bricoles qui arrivent, notamment extra-sportivement. Encore des dossiers sur lesquels le SCO s'est embourbé avec des magouilles, des procès, voilà, c'est vrai que en fait, ce qui est inquiétant dans la situation du SCO, et tu le disais, bah voilà, c'est que on a l'impression que ça s'effondre sportivement et que structurellement, en tout cas dans les instances du SCO, bah ça s'écroule aussi avec un nombre d'affaires mais faramineuses tous les 6 mois, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive en plus. Et une fois, c'était la suspension de Mercato avec le joueur du Paris FC, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, oui.
Et voilà, il y a eu Piqueux, il y a eu Endo, il y a eu là, il y a Batic, ils vont aller au Prud'homme. Enfin, voilà, ça va être quelque chose encore d'assez sympa à suivre, ironiquement. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que la situation du SCO est compliquée. Si vous deviez rapidement, hein, avant d'enchaîner, si vous deviez. Pariez, pronostiquez, vous pensez que le SCO va se maintenir ou pas?
Très, très compliqué.
Très compliqué. Ouais.
Surtout avec les 4 équipes qui descendent direct cette saison, ça paraît mission impossible. Quoi.
Très bien. Eh bien, voilà, on verra justement, peut-être qu'il y aura des progrès. Mais en tout cas, on verra ça sur évidemment, les mois prochains. Faustin, ça va être à ton tour pour nous parler un peu de basket. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs cette semaine, puisque c'était le nouvel an notamment. Mais je crois que l'EAB, non, si l'EAB et Cholet Basket ont joué la semaine dernière.
Tout à fait, l'EAB, ouais, comme tu le disais, qui ont joué donc mardi dernier et qui ont malheureusement enregistré leur 3e défaite d'affilée en championnat. Cette fois, c'était à Lille et ils sont inclinés sur le score de 84-73 en espérant qu'il puisse se reprendre mardi prochain face à Saint-Quentin. Ensuite, comme tu le disais, l'UFAM n'a toujours pas joué cette semaine, mais elles reprendront de l'activité dès demain en Eurocoupe contre l'Estudiantes Madrid.
Avec leur nouvelle recrue.
Oui, tout à fait.
Et qui est arrivé vraiment là tout juste. Donc, ce sera peut-être trop juste pour la...
J'ai pas vu passer ça.
C'est dans le mail partenaire qu'on a reçu
on a de la
pour la nouvelle année.
voilà, maintenant les Choletais qui ont reporté leur seul match de la semaine. Ils se sont en effet imposés à domicile face à Limoges sur le score de 81-74 et recollent ainsi à la 2e place du championnat de Betclic Elite à égalité avec les Mets 92.
Très bien, bien, merci pour ce petit point basket. On reparlera un peu justement des équipes de basket professionnelles du Maine-et-Loire en fin d'émission quand on évoquera justement les événements en 2023. Alors, pour enchaîner, on va parler de hockey évidemment avec la Ligue Magnus qui ne s'arrête jamais pour les Ducs d'Angers. Les Ducs qui ont dû disputer 2 matchs la semaine passée. Mardi soir, dans un match prolifique et marqué par de nombreux rebondissements, les Angevins se sont inclinés à Chamonix 5-4. Mais ils sont bien repartis jeudi soir en s'imposant 3-1 contre Mulhouse et ont conservé ainsi leur place, notamment sur le podium. Ils défieront leurs rivaux de toujours, les Dragons de Rouen, vendredi soir en Normandie, pour un choc de Ligue Magnus qui s'annonce palpitant. On va passer au sport international maintenant, avec la Ligue 1, même s'il n'y a évidemment pas grand-chose, évidemment, à part le football, le basket et un peu de tennis qui reprend tranquillement. Justement, on va commencer par la Ligue 1 avec cette reprise qui a été faite la semaine dernière avec 2 journées pour bien reprendre la voie du championnat pour faire cette transition entre la Coupe du Monde et la Ligue 1. Durant la première, la première des 2 journées, les Cadors comme Monaco, Marseille ou encore Lyon ont maîtrisé leurs adversaires pour prendre les 3 points en régalant notamment offensivement. Les Parisiens ont quant à eux vécu une soirée un peu compliquée contre Strasbourg. C'était mercredi soir, mais ils ont réussi à s'en sortir 2-1 grâce notamment à Kylian Mbappé. La journée suivante a été un vrai calvaire pour le PSG, battu à Lens sans broncher 3-1. Les Nordistes, qui sont actuellement 2e, sont à 4 points de leurs adversaires du soir. C'était donc le soir du premier, c'était dimanche. Sur les autres matchs de cette 17e journée, les Rennais se sont notamment relancés contre Nice 2-1. Lyon a déçu contre Clermont en s'inclinant 1-0. Strasbourg s'est enfoncé dans la crise, en perdant 3-2 contre 3. On va faire un petit point sur le classement de Ligue 1. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, on le disait, il y a donc Lens et le Paris Saint-Germain qui se tiennent en 4 points. Ça concerne les deux premières places. Sur le podium, on retrouve Marseille avec 36 points. Ensuite, Rennes, Monaco, Lorient, Lille. C'est assez serré entre toutes ces équipes-là. Ça nous promet une fin de championnat assez palpitante, une deuxième partie de saison assez intéressante. Lyon est un petit peu distancé par rapport à ses concurrents. Ils sont 8e à 6 points de Lille, qui est 7e. Au niveau du maintien, Nantes, on l'a dit, s'est un petit peu relancé, notamment ce week-end, en s'imposant 1-0 contre Auxerre. Les Nantais remontent à la 15e place et avec de l'avance un petit peu sur la zone de relégation. Parmi les relégables, on retrouve Brest, qui a changé d'entraîneur aujourd'hui avec l'arrivée d'Éric Roy. Auxerre, qui est égalité avec Brest, donc à la 18e place. Et puis, on retrouve Strasbourg, 11 points seulement, une seule victoire depuis le début de la saison. Et puis, Angers, dernier, avec seulement 8 points. Et donc, comme je le disais, 7 points de retard sur le premier non relégable. On va enchaîner avec le basket. Il y a pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé, notamment en NBA, mon cher Faustin. De quoi tu veux nous parler ?
Je vais démarrer par la LNB, parce que ce qui a marqué le championnat... Oui. C'est la trêve, car il y avait le All-Star Game qui se déroulait jeudi soir.
Donc on retourne en France, du coup.
Oui, tout à fait. Cependant, Monaco ni Villeurbanne, aucun de leurs joueurs ne pouvait participer, car ils avaient Euroleague le même soir ou le soir d'avant, il me semble. Ouais. Malheureusement, Villeurbanne s'est incliné, tandis que Monaco s'est imposé. Ce All-Star Game se déroulait donc à l'Accor Hotel Arena à Paris. Il opposait une sélection de joueurs français contre une sélection de joueurs du monde entier. Le match s'est solvé sur une victoire de la Team France sur le score de 136 à 128. Concrètement, le match a joué sérieux dans les 5 dernières minutes. Sinon, c'était 3 points, dunk et alley-oop à gogo sans aucune défense. Victor Wembanyama.
Du classique pour le All-Star Game.
Voilà, c'est juste du basket plaisir, ça, ouais. Un show comme on l'aime.
Bien sûr.
Victor Wembanyama a donc fini MVP de ce All-Star Game.
Surprenant.
Ah, étonnant, avec ses 27 points et 12 rebonds. Il est donc le plus jeune MVP du All-Star Game de LNB. Ce All-Star Game était aussi marqué par différents concours entre chaque quart-temps. Le premier, c'était le concours à 3 points, et c'est Nicolas Leng, le joueur de Limoges, qui l'a remporté. On a ensuite eu le droit au concours de dunk pendant la mi-temps, avec notamment une très belle prestation de Yves Pont, qui a donc gagné ce concours. Il a démarré avec un moulin à vent, où il monte la tête à hauteur de l'anneau. Son second dunk, où il passe au-dessus des 2m19 de Victor Wembanyama.
Incroyable.
Rien que ça, sans s'appuyer, c'était splendide. Ensuite, un dunk depuis la ligne des lancers francs, sans mordre, comme Michael Jordan, j'ai envie de te dire. Et pour conclure, un double bump. Donc, un double bump, c'est en gros, tu montes la balle à tête, tu la redescends entre tes jambes et tu la remontes en dunk en arrière. Okay.
En arrière,
Oui, en arrière.
C'est compliqué.
Et il a fait ça pieds nus.
Pieds nus.
Pieds nus, il a enlevé
sur
ses chaussures.
Sur un parquet qui glisse.
Ouais, il a fait un petit show, il s'est fait tatouer un tatouage Airpont.
Oula.
C'était un peu louche au début, on comprenait pas trop ce qui se passait. Et bon, il a évidemment gagné ce concours de dunk. Pour finir, lors du troisième quart-temps, c'est le Skills Challenge qui a été remporté par le meneur scholtais T.J. Campbell. Donc, le Skills Challenge, c'est un parcours avec des slaloms, des passes à faire et des shoots. Le premier à finir le parcours, évidemment, gagne le concours. Ouais. Et c'est donc notre meneur scholtais qui l'a remporté.
Eh bien, c'est bien, ça fait briller le cholet basket. Quoi d'autre ?
Passer à la NBA.
C'est bon.
Ouais, voilà, la NBA. Le 30 décembre, LeBron James a fêté ses 38 ans.
Oh.
Et pour l'occasion, il a décidé de montrer qu'il était toujours là, en patron, en sortant une très grosse perf face à Atlanta, avec 47 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Mais c'était pas la seule grosse perf de la semaine, car Luka Doncic en a sorti une historique avec 60 points, 21 rebonds et 10 passes décisives. C'est le premier à réussir à inscrire 60 points, capter 20 rebonds et faire 10 passes D.
Et je crois que ça s'est passé juste le soir de l'émission, juste après l'émission.
Oui, pour Luka Doncic, tout à fait, oui, c'est ça.
Exactement.
Mais j'ai écrit, j'ai préparé mon émission hier soir.
Ok.
Sauf qu'il y a eu des matchs.
Oui.
Et là aussi, il y a eu des perfs, 2-1-1, j'étais pas... 2-1-1,
t'étais pas prêt,
Quand je me suis réveillé et que j'ai regardé les résultats, j'ai fait « wow, c'est quoi ce truc ?» Avec tout d'abord les 71 points, rien que ça, de Donovan Mitchell.
Ok, oui, 71 points.
Ouais,
oui.
C'est les 8e plus grosses performances en NBA.
D'accord.
Après, 54 points pour Klay Thompson. Voilà.
C'est pas mal aussi.
Ensuite, LeBron James qui montre encore qu'il est là, avec 43 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Puis Joel Embiid, tranquillement, 42 points, 11 rebonds, 5 passes décisives. Et pour finir, Luka Doncic, 39 points, 12 rebonds, 8 passes décisives. C'était une très belle soirée.
Où les stars ont brillé.
Ouais, exactement. Ça devait être beau à voir. Ouais.
Et là, tu regrettes de plus être en vacances.
À une journée.
C'est vrai, t'as repris. Ouais. Ouais, c'est vrai que effectivement, cette soirée-là, ça devait être pas mal.
Non, mais c'est vrai que pendant les fêtes, j'ai remarqué ça. Il y a eu beaucoup plus de mise en avant du basket.
Je suis d'accord.
Que ce soit en France ou même en NBA, justement par ses résultats ou ses actions un peu folles.
Alors que là, il y a eu le foot, en plus, exceptionnellement, normalement, il y a la Ligue 1. Et là, on suivait aussi pas mal de basket. C'est vrai que dans ces périodes-là, il y a à peu près que le basket qui résiste au fait de fin d'année. Mais bref, c'est vrai que c'est assez intéressant. On va terminer avec le tennis. La saison 2023 de tennis commencera sur les chapeaux de roue par le 16 janvier, par l'Open d'Australie. En attendant, l'année a débuté par un tournoi amical entre nations sur l'île océanique, la nouvelle United Cup, un mélange mixte entre la Billie Jean King Cup et la Coupe Davis. Placée dans le groupe des Croates et des Argentins, la sélection française était composée de Caroline Garcia, une des meilleures joueuses du circuit la saison dernière, Alizé Cornet, Arthur Rinderknecht et Adrian Mannarino. Le premier match contre l'Argentine s'est bien passé, en tout cas mieux que la finale de la Coupe du Monde, avec un succès 5-0. La qualification pour les demi-finales de la compétition se jouait aujourd'hui contre les Croates, et malheureusement seule Caroline Garcia a réussi à s'imposer dans la rencontre. Mannarino et Rinderknecht sont passés pas loin de marquer ce deuxième point des Français, mais l'aventure se terminera donc ici pour la troupe tricolore. Dans deux semaines, nos franchises donc devront relever leur premier défi de la saison lors de l'Open d'Australie. On va tout de suite marquer la pause musicale et on va se retrouver juste après pour parler de Pelé, pour parler aussi du futur de l'année qui nous attend en 2023. On va s'écouter Lucky Day et son titre Over et on revient juste après.
Why you slow down, don't stop, it's green light. Now you calling me special when you know I can't have you. When I'm on to the next one, oh, now you want to get aggressive. Do you mean you keep on making me bleed? Nightmares turn into a dream. If you're so toxic to me, what am I feeling? Cause I thought it was over. Got me thinking my feelings over. You keep doing it over and over. You keep calling me back. I'm just trying to get closer. But you're pulling me closer and closer. For me, you're like over and over. Cause you keep calling me back. La 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 la. Why you keep calling me I'd rather we never pick up, but can we slip up and mix up sometimes? You say you don't mean it, just want it
you. Oh, now you won't get aggressive. Oh, do you mean you keep on making believe nightmares turn into a dream? If you're so toxic to me, what am I feeling? Cause I thought it was over. Got me thinking my feelings over. You keep doing it over and over. You keep calling me back. I'm just trying to get closure. But you're putting me closer and closer. Phone ringing like over and over. Cause you keep calling me back. La 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 la. On a thin line, we've been through it like 10 times. I'ma put you in line. Yeah, I had you on an incline. Now I don't even wanna reply. I'ma have to decline. Yeah, you show.
C'était Lucky Day et son titre Over qui nous a bien marqué dans cette année 2022. On est de retour donc dans Génération Sport. Vous nous écoutez toujours sur Radio G 101.5 FM ou bien sur le site internet www.radio-g.fr. Donc ravi d'être toujours avec vous pour la suite et fin de notre émission. On va continuer donc à parler de sport avec un événement, on peut le dire, un événement triste dans le monde du sport, c'est le départ un peu redouté, un peu craint, qu'on attendait tous cette nouvelle, Pelé qui nous a quittés à l'âge de 82 ans, donc c'était le 29 décembre dernier, c'était tout simplement jeudi dernier il me semble. Voilà, c'était c'était un moment évidemment très, très émouvant pour tout le monde du football et plus globalement du monde du sport, avec évidemment, vous avez dû l'entendre un peu partout, chers auditeurs, voilà, les hommages qui ont pu être faits de la part des légendes du football, des instances du football, de tous les clubs. C'est quelque chose qui concerne tout ce qui touche un peu au football. C'est la première grosse star du football. C'est pour certains encore le meilleur joueur de tous les temps. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose d'évidemment marquant pour le monde du sport. C'est quelque chose d'émouvant en sachant qu'il s'est battu contre un cancer du foie sur la fin de sa vie. Et malheureusement, il n'a pas pu survivre sur la fin de l'année 2022. Donc voilà, c'est vrai que c'est un assez gros événement dans l'histoire un peu du football. Ça arrive 2 ans après le départ de Diego Maradona qui nous a quitté en 2020. Et voilà, c'est une autre légende du football qui nous quitte après. Donc, je l'ai dit, Maradona, mais aussi Cruyff, Raymond Kopa ou encore d'autres grands joueurs. Pelé, bon, on va être un petit peu honnête aussi avec vous. On ne l'a jamais vu jouer, et voilà, c'est peu de le dire, évidemment. Mais c'est un joueur qu'on n'a jamais vu jouer, qui a arrêté sa carrière en 1977. Donc, c'est quand même assez compliqué. Il y a très peu de gens qui sont contemporains qui peuvent dire « j'ai vu Pelé jouer au football ». Mais voilà, avec toutes les vidéos qu'on peut voir, notamment sur les réseaux, sur YouTube ou d'autres, c'est vrai que c'était un joueur assez incroyable et qui était peut-être le premier grand joueur, premier beau joueur à avoir joué depuis l'histoire du football. Il a été surtout, il a marqué son sport par ses 3 titres de champion du monde, qui sont quelque chose potentiellement qui seront jamais égalés, qui sera quelque chose de jamais égalé dans l'histoire du football. À voir si la suite nous donne tort, mais voilà, en tout cas, c'est une performance complètement incroyable. Cédric. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, entre guillemets? Qu'est-ce que ça t'a fait, ce départ de Pelé?
Forcément, ça choque un peu, quoi. On savait, voilà, que pendant la Coupe du Monde, on avait appris qu'il était hospitalisé. Il y avait eu des petites périodes où ça allait mieux. Mais là, bon, très vite, ça s'est su que voilà, la fin était proche. Et au final, quand c'est tombé, t'es plus choqué parce que ça tombe que surpris, quoi. Après, voilà, comme on dit, c'est une légende du foot avec beaucoup d'ombre sur certains faits parce que c'est tellement compliqué. Il faut savoir que c'est à cheval entre le foot ancien et le foot moderne.
Bien sûr.
Son règne, on va dire. Par exemple, le 100e but qui marque, on ne sait pas si
c'est le millième.
Ou le millième. On ne sait pas trop si c'était réellement son millième, s'il y en a
oui,
un peu plus ou un peu moins.
Enfin,
voilà, y a toute la légende aussi. On ne sait pas réellement pourquoi Pelé comme surnom.
Oui.
Il y a beaucoup qui disent apparemment que ce serait son surnom enfant.
Oui, par rapport à, il me prononçait mal le nom d'un, justement d'un gardien de but, je crois.
Oui, c'est ça, ce que j'ai entendu.
Et du coup, voilà, c'est comme ça, c'est venu Pelé.
Voilà.
Son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento. Oui. Voilà, pour information.
Après, voilà, enfin, ça pose toujours la question, est-ce que c'est réellement le meilleur joueur du foot
de tous les temps?
De tous les temps. C'est un peu compliqué, parce qu'on dit que... À partir du moment, c'est un peu le dilemme qu'il y a eu longtemps avec Messi, c'est tant que tu fais pas plusieurs clubs, que tu testes pas plusieurs championnats pour savoir réellement ce que tu veux, ouais. On peut pas vraiment juger. Et c'est vrai que son parcours est un peu atypique, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est exclusivement qu'au Brésil, quoi. C'est...
Ouais, à Santos.
À Santos,
et
voilà.
Et 3 ans au New York Cosmos.
Ouais, et encore, apparemment, quand on entend beaucoup de journalistes, ils disent que sa carrière était déjà finie à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
C'était plus l'aspect, on va pas dire médiatique pour lui, mais c'est l'image qui véhiculait autour de ça.
Et justement, ça a permis aux Américains de s'intéresser au football, parce que voilà, c'était une vraie attraction, Pelé, à ce moment-là, et c'est vrai que ça a permis peut-être d'importer le fameux soccer aux États-Unis.
Ah, et puis après, il y a tout son engagement aussi extra-sportif, hein, qui fait aussi partie de sa légende. Les premiers changements à la FIFA, le premier président hors européen, voilà, c'est grâce à lui, entre autres, que ça a pu se faire, puisque bon, par des tractations, je ne sais plus son nom de ce président de la FIFA qui a dit, vas-y, file-moi, entre parenthèses, un petit coup de main. Et il a été un peu le porte-étendard de ça à travers le monde, et surtout en Afrique, où c'était très compliqué pour le football aussi d'être reconnu par l'instance de la FIFA. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses-là. Il y a eu aussi son engagement politique, qui à une époque était aussi un petit peu remis en cause sous la dictature.
Ouais.
Autant certains de ses coéquipiers, c'était pro-gouvernement... Pour l'instant,
certains même qui voulaient lutter contre le gouvernement.
Et lui était plus dans la neutralité, enfin,
qui voulait pas se politiser.
Donc c'est ça. Après, pour.
Mais clairement, ça a été un joueur d'un autre temps. En fait, j'ai l'impression, en tout cas en voyant toutes les images qu'on a pu voir et puis tous les récits qu'on a pu entendre, on a l'impression que c'est vraiment un joueur moderne dans les prémices de ce qu'est le football. C'est le premier joueur le premier joueur technique, le premier joueur spectacle, la première légende du football. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui...
C'est aussi le premier joueur aussi qui a eu un contrat sur sa tête en Coupe du Monde.
Oui, c'est
parce
vrai.
Parce que la Coupe du Monde en Angleterre, qui est la Coupe du Monde du scandale...
Ouais, 1966.
Voilà. C'est en poule, il se fait laminer.
Il se fait blesser rapidement. Ça arrive d'ailleurs
en 58. Il y avait réellement limite un contrat sur lui.
Ah oui, clairement.
Et ce qui a fait que le Brésil ne va pas en finale. Il y a un parcours compliqué. Au final, c'est l'Angleterre qui gagne, on se rappelle, avec des choses bien bizarres.
Oui.
La seule finale gagnée par l'Angleterre en Coupe du Monde.
Oui.
C'était vraiment ce milieu aussi de la FIFA qui l'a combattu aussi derrière. Et si on regarde son premier titre, c'est à 17 ans.
À 58.
Voilà. Il reste 58, pour l'instant toujours le plus jeune.
Ouais. Et il a mis un doublé.
C'est ça.
À 17 ans.
C'est là qu'il se révèle.
Oui.
Ensuite, il y a cette deuxième Coupe du Monde où il se blesse
très tôt.
Très tôt, je crois, au premier ou deuxième match.
Ouais, c'était en 62, je crois que c'était en Suède.
Voilà, il gagne, donc du coup, le Brésil gagne la Coupe du Monde. Et il y a cette troisième Coupe du Monde où normalement, il n'aurait jamais dû être là. Et lui, il avait décidé d'arrêter et tout. Il est rappelé.
En 70.
Et voilà, et là, t'as le miracle qui conduit l'équipe vraiment.
Au titre.
Au titre, et voilà.
C'était l'une des plus grandes équipes de tous les temps.
Et c'est ça, c'est.
Avec des joueurs d'exception.
Avec Saint-Gallo, il me semble. On retrouvera entraîneur du Brésil des années après. Enfin,
Il y avait qui? Je crois qu'il y avait Garrincha, peut-être.
Je sais plus.
Mais il y avait des joueurs d'exception qui fait que le Brésil 70, ça parle à pas mal de gens. Et c'était quelque chose d'assez incroyable.
Au final, même pour nous, c'est ce Brésil-là.
Ouais,
dans notre inconscience qu'on connaît.
Ouais.
C'est Après, pareil, c'est la première Coupe du Monde aussi diffusée, je crois, en couleur. Donc,
exactement, ouais. Mais en fait, c'est ça, il est dans les... C'est lui qui lance, quelque part, le football de football qu'on connaît, les prémices. Justement, tu parlais des contrats qu'il a eu sur la tête. Il s'est fait sécher notamment en 62. C'était assez compliqué pour lui. Voilà, je crois qu'il y a un Tchécoslovaque et un Portugais qui se sont mis plusieurs fois dans le tournoi contre lui pour le tacler, pour le blesser, pour l'achever. Et justement, c'est un peu... Donc à l'époque, il n'y avait pas de carton jaune, il n'y avait pas de carton rouge non plus. Et du coup, on ne pouvait pas exclure quelqu'un. Et en plus, il n'y avait pas de remplacement. Donc s'il se blessait, il ne pouvait pas sortir. Et justement, c'est notamment en voyant ça, sûrement que la FIFA s'est dit, bah, là, on doit faire quelque chose, on doit changer au niveau de nos règles, parce que voilà, forcément, le football était à ses débuts. Et si des joueurs ont un comportement qui est pas très gentleman, et les Anglais en faisaient partie, eh bien, il faut savoir les exclure de la rencontre. Et donc voilà, c'est notamment en partie grâce à Pelé, justement, en tout cas grâce à des joueurs techniques comme ça, qui esquivaient un petit peu les crocs en jambes, les tacles, qu'on a pu avoir des évolutions au niveau du football, en plus de son rôle dans la FIFA, sur le terrain aussi quelque part. Un joueur comme ça, qui joue littéralement un autre sport que les autres à cette époque-là, permet de dessiner le football de demain et de voir un peu les contours de ce que sera le football moderne.
Et puis il a été aussi ministre des sports.
Oui.
Enfin, l'équivalent du ministre des sports, ouais, au Brésil. Et dans son implication, il a fait une réforme quand même importante pour, ouais, tous les clubs au Brésil. Il a fait l'équivalent de la loi Bosman.
Oui, l'arrêt Bosman.
L'arrêt Bosman, voilà. Et du coup, ça a changé tout ce qu'on voit maintenant au niveau des clubs brésiliens. Ça a été une révolution quand il a réussi à faire accepter son projet. On sait aussi qu'il a été ambassadeur de l'ONU. Enfin voilà, il a eu quand même
pas mal de choses, ouais.
Changement.
Donc voilà, Faustin, toi, tu l'as évidemment pas connu, mais un peu comme nous. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur Pelé? Pas grand chose ou un petit mot?
Quand même, hein, Pelé, c'est une grande partie du, oui, foot, hein, qui s'en va. Pelé, c'est le Brésil, j'ai envie de dire un peu quand même.
C'est ça.
La technique, c'est le premier joueur comme ça qui en a vu débloquer plein d'autres. Donc c'est super triste de voir ce joueur partir, quoi.
Ouais, c'est un des premiers noms quand potentiellement tu t'entendais parler de foot, c'était un premier nom qui revenait,
ouais, bah,
en tête, forcément. Ça,
c'est les débuts. C'est le début du football moderne, comme tu disais tout à l'heure. La technique, les dribbles, les gestes techniques, les beaux buts, c'est tout ça qui s'envole.
Voilà, qui s'envole. C'est vrai que tu voulais rajouter un dernier show sur Pelé ou on peut enchaîner?
Bah non, écoute, on n'aura pas fait le tour, ça c'est sûr. Aussi bien de sa carrière.
Il faudrait une émission entière. Mais
voilà, et encore une émission entière, ce serait tellement compliqué. Parce que c'est vrai que.
Il y a pas mal de choses.
Là, on a vraiment évoqué des choses qu'on a entendues.
Ouais.
Mais c'est vrai que, contrairement à ce qu'on se disait hors antenne, quand on a préparé l'émission, autant on a eu la facilité de parler de Maradona quand il est décédé, ouais, parce que c'était à cheval sur nos générations.
Oui.
Et qu'on a vu peut-être plus d'images, et puis il y a peut-être ce côté aussi sulfureux.
Et puis il coachait, il avait.
Voilà, il y a eu ça aussi. Puis il y a eu le côté sulfureux aussi, ouais, qui fait qu'on
connaissait, quoi.
On connaît un peu mieux. Et là, c'est vrai que, hormis les quelques images qu'on a pu voir, on ne l'a jamais vraiment vu jouer.
Puis c'était quelqu'un de discret.
Voilà, oui, il y a ça aussi qui en sort.
Rarement.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petites théories sur sa vie, en fait,
ouais, ouais,
qui sortent et qui sont incroyables.
Ouais.
Apparemment, s'il est resté aussi longtemps aussi à jouer uniquement au Brésil, c'est que limite il y avait le gouvernement qui aurait dit,
oui,
il est intransférable.
Donc, oui, c'est ça, il y a pas mal de choses.
Et ça montre aussi la valeur du foot,
ouais,
peut-être moins maintenant, mais à une époque, c'était vraiment l'opium du,
ouais,
du peuple, quoi.
Effectivement, donc Pelé qui nous a quittés à l'âge de 82 ans. Donc des suites d'un cancer du foie. Donc voilà pour ce petit point sur Pelé. On va enchaîner tout de suite avec voilà les événements qui nous attendent cette année en 2023. Il y a pas mal de choses qui nous attendent. On va commencer sans plus tarder, sans transition, par le sport local. J'ai noté quelques dates qui vont être intéressantes. Il y en a pas mal en janvier notamment. Et déjà quelque chose. On a déjà parlé un peu d'autres. Faustin, tu parlais donc le 4 janvier, donc demain, il y aura le 32e de finale d'Eurocoupe pour l'UFAB 49. et j'en ai déjà parlé, mais il y a le début de la Coupe de France, notamment pour le SCO, le 6 janvier, peut-être quelque chose qui pourrait les aider à aller mieux dans leur saison. Sinon, évidemment, le rendez-vous, on en parle depuis très longtemps, depuis un petit moment maintenant, la finale de la Continental Cup des Ducs d'Angers à l'Ice Park du 13 au 15 janvier. Donc voilà, encore une fois, prenez vos places, allez encourager les Ducs pour qu'ils aillent chercher ce titre européen qui serait une grande performance dans l'histoire du club. Ensuite, le 17 janvier, il y a un gros rendez-vous pour l'EAB qui doit disputer sa demi-finale retour de Leaders Cup. Donc voilà, ce sera à domicile. Et donc voilà, pareil, allez encourager l'EAB qui doit chercher cette finale de Leaders Cup. On le rappelle, s'ils gagnent la Leaders Cup, ils peuvent avoir une place garantie en play-off, ce qui serait assez, assez incroyable pour leur remonter en Pro B. Et donc cette finale qui sera d'ailleurs du 17 au 19 février à Saint-Chamond. Au niveau des autres, plus tard, si on veut aller plus loin, il y a le 23 mai, le début des playoffs de Betclic Elite, notamment ça concernera Cholet Basket. Et puis pour revenir sur le SCO, le 3 et 4 juin, ce sera la dernière journée de Ligue 1. Donc voilà pour le SCO, on verra à ce moment-là s'ils seront déjà relégués, s'ils seront déjà maintenus. On verra tout ça sur l'année. Est-ce qu'il y a localement d'autres événements qui peut-être organisés à Angers? Parce que je n'ai pas forcément noté ça, mais je me suis concentré sur les équipes qui sont
dans
concernées.
Dans les Ducs, tu as parlé de, juste de la Coupe d'Europe.
Ouais, je n'ai pas parlé de la
mais
Coupe de France.
Il y a dès demain.
C'est dès demain,
dès demain, c'est...
C'est la demi.
C'est la demi à domicile.
Contre Grenoble.
Contre Grenoble, donc avec un goût spécial aussi. Donc,
exactement.
Et je regardais, là, du coup, c'est plein.
C'est déjà plein.
Il n'y a plus de place, ça parle.
Ok, très bien.
Donc, ouais, non, ça va. Enfin, ne serait-ce que pour le hockey, le... je ne sais pas si tu as vu le calendrier qui est passé pour le mois de janvier, mais c'est fou.
Ouais, c'est complètement dingue.
Voilà, donc ça va être folklorique pour eux. Ça...
J'espère que ça va être bien.
C'est... Voilà, c'est... en tout cas, on aura peut-être beaucoup de choses à fêter. Ouais, sur le calendrier du basket aussi, ça va être intéressant de voir comment les filles vont pouvoir s'en sortir.
Ouais.
Ils ont déjà bien fait le travail pour l'instant, en avançant bien dans cette Coupe d'Europe aussi. Donc,
ouais.
C'est bien au niveau de l'Europe, en tout cas pour les clubs en juin là, qui sont engagés et qui ont commencé la compétition. C'est intéressant.
Ouais, clairement.
Et après, on verra avec du côté des gars en basket s'ils vont aller chercher cette Coupe ou pas aussi, là, qui pourrait leur faciliter les choses pour cette saison.
Ouais, c'est clair.
La Leaders Cup, effectivement, qui pourrait tendre les bras à Angers cette année. On va enchaîner du côté de l'international. Je vais parler un petit peu de tout ce qui peut nous attendre là de spécifique hein, à l'année 2023. Alors, donc, en football, on va commencer. Alors, évidemment, on a la finale de Ligue des Champions qui arrivera en juin prochain. On aura, pour ceux que ça intéresse, le Final Four de la Ligue des Nations. On aura également au niveau du foot de sélection les éliminatoires à l'Euro 2024 qui se termineront justement à la fin de cette année-là 2023 et avec ce tirage au sort qui aura lieu en décembre 2023 à la fin de l'année. Également, nous aurons l'Euro Espoir 2023 qui sera assez intéressant à suivre, notamment sur l'équipe de France qui a pas mal de très bons jeunes joueurs. Et puis aussi, il y a la Coupe du Monde féminine qui se déroule en Océanie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec donc voilà l'équipe de France qui peut peut-être aller chercher quelque chose, un bon résultat pour cette Coupe du Monde féminine.
On espère un bon traitement médiatique parce qu'avec le décalage horaire,
oui,
ça risque d'être compliqué.
Et contrairement à 2019 où c'était en France, donc il y avait plus de couverture. On espère que les médias français auront la même énergie pour l'année 2023. On va se projeter aussi sur la saison 2023-2024 avec, du coup, quand on y réfléchit bien, le lancement de la dernière Ligue des Champions format classique en 2023-2024. Voilà, ce sera la dernière phase de poule qu'on connaît, en tout cas, sur ce format-là. Donc voilà, ce sera on dira au revoir à cette format Ligue des Champions qu'on aimait bien. Et on dira après, en 2024, bonjour à un autre format un petit peu moins plaisant. Je ne sais pas ce que t'en penses, Cédric.
Bah, tu vois, il m'a tellement pas marqué que je me souviens même plus de ce qu'ils ont prévu en réforme.
On aura le temps d'en
parler.
Mais
je crois que c'était invraisemblable. Ouais.
C'est du n'importe quoi, comme d'habitude, à l'UEFA. Et puis, ce sera aussi le début de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à 18 clubs. Donc voilà, ce sera intéressant de voir. C'est des habitudes qui changent, hein. Clairement. On est habitué à la Ligue 1 à 20 clubs.
Ce qui serait intéressant de voir, c'est comment va être aménagé le calendrier.
Ouais, c'est ça, il n'y aura, que 34 journées, du coup.
Donc, logiquement, plus de temps de repos pour les joueurs. Ouais, logiquement. On connaît nos instances. Hein.
Évidemment, ils vont nous sortir des compétitions.
Le retour de la Ligue.
De la Ligue Intertoto, des trucs comme ça. Enfin, bref, on va se régaler. Bref, on va enchaîner sur le football. C'est vrai que ça va être une année assez intéressante à suivre. Il y a pas mal de petits trucs à voir. Au niveau du... on va changer de sport, on va aller sur le handball. J'en ai parlé il y a deux semaines. Il y a le mondial masculin en Suède et en Pologne qui va se dérouler donc en janvier. Ça va démarrer très bientôt. Et puis, il y a le mondial féminin qui se déroulera en Suède, en Norvège et au Danemark. Ce sera en décembre prochain. Au niveau des baskets, on aura comme chaque année les finales NBA. Qui seront très attendus. Et puis la draft 2023, c'est bien cette année-là, Faustin ?
Ouais, c'est tous les ans la draft.
Pour Victor Wembanyama, j'avais pas précisé. Donc oui. Voilà, effectivement, cette draft 2023 qui devrait être une des plus attendues de l'histoire avec le monstre Victor Wembanyama en tête d'affiche de cet événement. Et puis évidemment, le mondial, la Coupe du Monde masculine en Asie du Sud-Est en août et septembre prochain. Au niveau du rugby, voilà, c'est aussi le gros événement de l'année 2023. C'est donc la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Donc voilà, ce sera un événement évidemment très couvert dans tous les médias de sport ou pas de sport. Donc voilà, ça va être très intéressant à suivre avec nos Français qui sont favoris. Et juste avant ça, d'ailleurs, il y aura le tournoi destination de février à mars pour eux. Et puis, j'en avais parlé dans une autre émission, mais il y a aussi la Champions Cup. C'est cette année la première édition avec des équipes sud-africaines. Et donc, pourquoi pas, on aura peut-être un vainqueur sud-africain de la Champions Cup, la Coupe d'Europe, avec donc une équipe sud-africaine qui pourrait gagner. Sinon, on va enchaîner avec l'athlétisme. Les championnats du monde se dérouleront à Budapest, mi-août 2023. Et puis, sinon, sur les autres sports, ce sont des saisons classiques qui nous attendent pour le tennis, le cyclisme et la Formule 1, en tout cas au niveau du calendrier. Les Français seront, je trouve, particulièrement à suivre sur cette année, sur ces trois sports-là. Sinon, je vais me retourner vers vous, les gars. Quels événements sportifs donc attendez-vous le plus en 2023 sur le plan international ? Qu'est-ce qui vous hype le plus ?
Forcément la Coupe du Monde de rugby.
Ouais.
Il y a tellement d'attentes dessus que je pense que ça va être très intéressant.
Moi, je pense, justement, là où les Français sont plus favoris, c'est, comme tu le dis, la Coupe du Monde de rugby. Mais perso, évidemment, c'est être les playoffs, les finales NBA, tout ça, ou la Coupe du Monde.
Ouais.
Je pense quand même plus à la Coupe du Monde, parce que ce sera plus accessible.
Ouais, c'est un vrai événement, quoi.
Ouais. Mais voilà, ce sera cool à voir, comme tous les ans pour les finales.
Ouais.
Mais la Coupe du Monde, voir enfin ce que peut faire Victor Wembanyama, accompagné de vrais joueurs en équipe de France.
Ça peut être sympa. Et du coup, tu disais... Vas-y.
Non, oui, j'allais rajouter que voilà, tu n'as pas aussi précisé, mais il y a tous les événements type All-Star Game, Super Bowl aussi, qui vont arriver courant.
Oui, Super Bowl.
Commence cette année, voilà.
C'est les événements donc réguliers de chaque année. Oui, tu disais par exemple pour le rugby, c'est vrai que ça va être un événement assez incroyable.
Ouais, je pense. Enfin, généralement les coupes du monde de rugby, il y a toujours une ambiance assez festive. Pourtant, je dirais maintenant autant d'argent que pour une coupe du monde de foot, mais je sais pas, il y a toujours ce côté bon enfant. Il y a jamais trop de soucis aux alentours de la Coupe du Monde. Le rugby, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de vagues non plus d'histoires extra-sportives. Donc, c'est bien, ça va permettre aussi de préparer, mine de rien, l'organisation des JO. Puisque, on est quasiment à un an et demi maintenant.
Ça arrive fort. Hein.
C'est ça, c'est... Donc ce sera déjà
un vrai test
aussi pour ne serait-ce que l'organisation du rugby au JO. Et puis cette année-là aussi, Mais on va, ça a sûrement commencé aussi les qualifications pour ces JO.
Exactement.
Et là, ça va être intéressant de voir dans, qui va être présent, qui ne va pas être présent déjà.
Ouais, on aura des sur cette année-là. Ouais. On aura des grosses déceptions, c'est pas un conflit. Hein. Peut-être des, même des blessés.
C'est ça, c'est.
Il va falloir faire gaffe aux blessures. Quoi,
tout va aller très vite. Hein.
Donc, ouais, effectivement, ça va être intéressant à suivre. Et sinon, individuellement, quels sont les sportifs et les sportives potentiellement qui vont vous intéresser, que vous allez particulièrement suivre cette année? Est-ce qu'il y en a, vous en avez en tête?
Bon.
Bon, tu vas le répéter encore.
Je vais pas me mouiller, mais Victor Wembanyama.
Hein, évidemment, quelle surprise. Non, est-ce que t'as pas un autre nom, peut-être?
En NBA?
NBA, ouais, ou n'importe. Ailleurs, n'importe.
Bah le Mars, j'ai plus son nom au rugbyman qui a été élu meilleur joueur.
Antoine Dupont.
Oui, Antoine Dupont, voilà.
Ok. Ah, pourquoi pas Antoine Dupont? Ça peut être une belle année pour lui, surtout avec la Coupe du Monde de rugby. Cédric, t'as quelqu'un en tête?
Un autre sport, ce serait plus une écurie. Forcément, on va avoir un œil
sur
Alpine, avec ce duo franco-français. Quoi.
Ouais. Deux Français, Françaises.
Mais curieux de voir comment ça va se passer, puisque bon, on sait qu'il y a un petit passif entre les deux. Donc ça peut mettre du piment dans les bons sens dans la saison. Ouais. Et puis forcément. Une nouvelle saison de F1 avec des nouvelles règles aussi, donc forcément ça va amener des choses, ça va peut-être mettre un peu de piment aussi.
Tu vas pouvoir râler sur la FIA comme chaque.
Ouais, ça c'est tant qu'ils n'auront pas compris certaines choses.
Oui, bien sûr.
Déjà ça commence avec les prix. surtout Alpine que je pense suivre après. Un français ou une française particulière, non, comme ça.
Ouais.
On espère voir justement des petites surprises éclore par-ci, par-là. Quoi.
Effectivement, 2023 peut nous surprendre, tout comme 2022 nous a surpris. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur Pelé pour les auditeurs. Il y a un très bon documentaire sur Netflix notamment qui retrace justement la vie, la carrière de Pelé, qui est très intéressant. Donc voilà, pour ceux qui voudraient découvrir un petit peu, l'homme, le joueur qu'il est. C'est sur Netflix. Voilà, vous tapez, je pense, Pelé, et vous pouvez le trouver assez rapidement. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec moi. Pour Génération Sport 2023, évidemment, ça va être, on l'espère, une année où on va pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité sur les ondes de Radio G. On aura peut-être un direct, en direct de Jean Boin, qui pourra peut-être être organisé avec un vrai expert cette fois-ci de basket avec nous. On a évidemment la deuxième édition des Générations d'Or. On aura pas mal de personnes aussi qui vont peut-être tester aussi à la radio, donc peut-être que vous entendrez des nouvelles voix au long de cette année 2023. Et puis voilà, on va espérer que...
Peut-être de nouveaux invités.
Bien sûr, évidemment.
Faut pas hésiter ça continue. À nous contacter.
Bien sûr.
On est friands, nous aussi, de nouveautés.
De nouveautés, de surprises,
de nouveaux clubs, à découvrir des gens,
bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter sur Génération Sport. Génération Sport, attaché. @gmail.com et puis sinon sur nos réseaux sociaux, hein, on est sur Twitter, Facebook et Instagram. En tout cas, effectivement une année 2023 qui va peut-être, en tout cas pour moi, peut-être être ma dernière. On verra ça, en tout cas il faut me le souhaiter, puisqu'évidemment je vais peut-être partir vers d'autres horizons. En tout cas, 2023 va être, on l'espère, une très bonne année pour Génération Sport, pour le sport angevin, pour le sport en général. On espère qu'on va kiffer un peu comme on a pu parfois kiffer en 2022. On va vous laisser avec la suite des programmes sur Radio G tout de suite après nous. C'est les plans de vagabondes, avec une émission enregistrée. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine, sans plus tarder, avec on poursuit un peu notre année 2023 et on se retrouvera évidemment mardi prochain à 20h sur Radio G en vous souhaitant une agréable soirée.
et à tous sur les ondes de Radio G101.5.